Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 25 avril 2023. Le président Joe Biden annonce être candidat à sa réélection en 2024.
Biden, qui se situe un tout petit peu au centre, est capable de fédérer les voix démocrates.
Dans la partie magazine, les enjeux de cette candidature avec Mohamed Mboj, enseignant d'histoire à Manhattanville College à New York. Accalmie ce mardi au Soudan après un accord de cessez-le-feu de 72 heures qui ont permis de nouvelles évacuations de ressortissants étrangers. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara évoque un financement des groupements politiques du Sénat dans un discours sur l'état de la nation. À Mayotte, la justice suspend l'évacuation d'un bidonville jeune mortel dans une secte religieuse au Kenya. Le bilan atteint 90 morts. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Joe Biden a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024 dans un message et une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Il avait promis en 2021 d'unifier l'Amérique. Maintenant, il dit qu'il souhaite finir le travail. Le point avec Nani Talani.
Je suis candidat à la réélection à la présidence des États-Unis. Rejoignez-nous, finissons le travail, a affirmé Joe Biden, insistant sur le combat en cours, selon lui, pour la liberté et la démocratie. Joe Biden se vante d'avoir promu la diversité comme peu de présidents avant lui, car il est secondé par la première femme vice-présidente de l'histoire des États-Unis, Kamala Harris, et est représenté par une porte-parole noire et lesbienne, Karine Jean-Pierre. Il a fait voter des investissements majeurs dans les infrastructures, les industries et la transition énergétique. Mais Joe Biden n'a pas interdit, comme promis, les fusils d'assaut, malgré plusieurs tueries. Le président américain a mis fin à la construction du mur que voulait Donald Trump à la frontière avec le Mexique, mais les arrivées massives de migrants se poursuivent et il n'a pas réussi à réformer le système d'immigration.
Sept candidats sont déjà en lice pour l'investiture démocrate ou républicaine. Seuls deux autres candidats se sont pour l'instant lancés dans la course à l'investiture démocrate face à Joe Biden, l'auteur à succès Marianne Williamson et le neveu de JFK, Robert Kennedy Jr. Côté républicain, en plus de l'ancien président Donald Trump, nous avons l'ancien gouverneur Asa Hutchinson, les entrepreneurs Vivek Ramaswamy et Perry Johnson, et une femme, Nikki Haley, ancienne ambassadrice à l'ONU. Cela dit, le Parti républicain a accusé aujourd'hui le président américain d'être déconnecté après l'annonce de sa nouvelle candidature pour 2024. Biden est tellement déconnecté de la réalité qu'il pense mériter 4 ans de plus au pouvoir alors qu'il ne fait que créer des crises, a dénoncé la chef du parti, Rona McDaniel. Le président américain Joe Biden rencontre ce mardi son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol à Washington au premier jour d'une visite d'État censée sceller l'alliance entre les deux pays. Le temps fort de cette visite d'État demain mercredi se déroulera au rythme d'un entretien à la Maison-Blanche et d'un dîner de gala. Il s'agit de la seconde visite d'État seulement d'un dirigeant étranger sous la présidence Biden après celle du président français Emmanuel Macron en décembre dernier.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique, l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud a demandé que le pays critiqué depuis le début de la guerre en Ukraine pour sa proximité avec Moscou quitte la Cour pénale internationale, a déclaré ce mardi le président Cyril Ramaphosa. Selon M. Ramaphosa, la décision de l'ANC en faveur d'un retrait de la CPI a été prise en grande partie en raison de ce qui est perçu comme un traitement injuste de certains pays par la Cour. Pretoria doit accueillir en août un sommet des BRICS, groupe de pays réunissant l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Membre de la CPI, le pays est théoriquement censé arrêter le président russe s'il entrait sur son territoire. Calme précaire au Soudan après un cessez-le-feu de 72 heures conclu entre les belligérants sous l'égide des États-Unis. Les pays étrangers profitent de l'accalmie pour évacuer leurs ressortissants. Les détails avec Alexandrine Ollognon.
Les explosions et les tirs se sont fait rares à Khartoum jusqu'à la mi-journée. 10 jours après le début des combats qui ont fait des centaines de morts. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a fait l'annonce du cessez-le-feu, a ajouté que les États-Unis vont coordonner leurs efforts avec ceux des partenaires régionaux et internationaux pour la mise en œuvre d'une cessation permanente des hostilités. Profitant de cette accalmie, les pays étrangers ont intensifié les efforts pour évacuer leurs ressortissants. D'après le HCR, jusqu'à 270 000 personnes pourraient encore fuir vers le Tchad et au Soudan du Sud voisin. Plus de 450 personnes ont été tuées et plus de 4 000 autres blessées depuis la mi-avril au Soudan, selon le dernier bilan de l'ONU. L'Organisation mondiale de la santé s'est inquiétée de risques biologiques très élevés après l'occupation par des belligérants d'un laboratoire public de santé de la capitale, où l'on pouvait trouver des agents pathogènes de la rougeole, du choléra et de la poliomyélite.
Le Parlement ivoirien devra désormais renouer avec ses deux sessions ordinaires. Ainsi en a décidé le président Alassane Ouattara, qui a proposé à cet effet une modification de la Constitution. Le chef de l'État ivoirien a par ailleurs évoqué un financement des groupements politiques du Sénat et il a fait savoir aussi que les élections des députés et des sénateurs se tiendront en 2025 après l'élection présidentielle. C'était ce mardi dans une allocution devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. On écoute Alassane Ouattara.
L'instauration de deux sessions ordinaires au Parlement, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, ainsi que les élections des députés et des sénateurs. L'instauration de deux sessions ordinaires vise, dans un souci d'efficacité, à permettre davantage de célérité dans l'examen et l'adoption des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période du travail parlementaire et celle du travail gouvernemental. Quant aux élections des députés et des sénateurs, elles auront lieu après l'élection présidentielle. C'est ce qui explique que nous avons avancé les élections locales au mois de septembre pour nous permettre de faire les élections des sénateurs dans le dernier trimestre de cette année, c'est-à-dire en novembre ou en décembre.
Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, propos recueillis par Delphine Bouise. Au Kenya, 10 nouveaux corps ont été exhumés ce matin dans une forêt de l'est du pays où la police enquête sur la mort des membres d'une secte religieuse qui pratiquait le jeûne. Le point avec Mohamedou Mfa.
Un journaliste sur place a vu 5 nouveaux corps emballés dans des sacs mortuaires bleus, tandis que 5 autres, dont ceux de 3 enfants, étaient en train d'être sortis d'une fosse commune peu profonde. Ces nouvelles découvertes portent à 83 le bilan de ce qui est désormais appelé le massacre de la forêt de Chakaola. Face à l'afflux des corps, la morgue de l'hôpital du sous-comté de Malindi est pleine, a indiqué l'administrateur de l'hôpital, Saïd Ali. La morgue de l'hôpital a une capacité de 40 corps, a-t-il souligné, disant que la Croix-Rouge a été sollicitée pour fournir des conteneurs réfrigérés. Par ailleurs, 2 survivants au corps sévèrement émacié ont été retrouvés ce mardi. Au moins 31 survivants ont déjà été retrouvés et hospitalisés depuis le début des recherches, selon la police. Selon la Croix-Rouge kényane, 212 personnes ont été portées disparues. Un ancien chauffeur de taxi devenu pasteur demandait à ses fidèles de jeûner afin de rencontrer Jésus.
À Mayotte, dans l'océan Indien, la justice française a suspendu l'évacuation d'un bidonville qui était prévu aujourd'hui. Hier, les Comores ont refusé l'accostage de bateaux transportant des migrants et suspendu le trafic de passagers dans le port où les expulsés comoriens sont habituellement débarqués. Claire Morin-Gibou.
Initialement prévu à partir de 6 heures du matin, l'évacuation de Talu 2, un bidonville situé à Kungu, où vivent plus de 100 familles, a été suspendue alors que les habitants avaient déjà préparé leurs affaires pour quitter les lieux. La justice a ordonné à la préfecture de cesser toute opération d'évacuation et de démolition des habitats visés, car cela mettrait en péril la sécurité des autres habitants du bidonville, dont les logements seraient fragilisés. Hier, le refus des Comores d'accueillir les expulsés en empêchant les bateaux d'accoster à Anjouan, l'île comorienne la plus proche du département français, avait semé un doute sur l'avenir de l'opération. La préfecture de Mayotte a annoncé faire appel de la décision de justice. Sur l'île, on estime que 100 000 personnes vivent dans ces habitats en tôle, insalubres et dangereux pendant la saison des pluies.
Harry Belafonte, grand chanteur afro-américain surnommé le roi du calypso qui s'est illustré dans la lutte pour les droits civiques, est mort ce mardi à New York à l'âge de 96 ans. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Mouhamadou Mfa.
La Côte d'Ivoire a levé le 17 avril 66 milliards de francs CFA de bons et d'obligations assimilables du Trésor sur le marché financier de l'UMOA. Les fonds mobilisés serviront à financer le budget national, estimé en 2023 à 11 694 milliards de francs CFA. Selon l'agence Ecofin, il s'agit d'un succès pour l'État ivoirien après les difficultés rencontrées au cours des trois premiers mois à mobiliser des financements sur le marché des titres publics de l'UMOA. La société camerounaise de palmeraies a terminé l'année 2022 avec un bénéfice d'environ 10,6 milliards de francs CFA, selon investiraucameroun.com, qui cite le rapport de son conseil d'administration du 29 mars. Cette performance est en baisse de 22,6% par rapport aux 13,7 milliards de francs CFA de 2021, une baisse qui se justifie par une forte augmentation des coûts de facteurs de production ainsi que des conditions climatiques pas favorables, selon la société. La Guinée-Bissau est devenue le premier pays non européen à adhérer à un accord international sur la responsabilité des gouvernements en matière de droits de l'homme et d'environnement, ont annoncé mardi les Nations Unies. Le pays espère tirer davantage des instruments de la Convention pour lutter contre les changements climatiques et promouvoir sa biodiversité en permettant au public de participer au processus décisionnel et d'avoir accès à la justice lorsque ses droits à l'environnement sont violés, a déclaré son ministre de l'Environnement.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
NBA pour commencer avec les playoffs qui se poursuivent ici aux États-Unis.
Oui, Butler met les Bucks au bord du gouffre. Les Lakers en font de même pour Memphis. Bagassi Koura.
Intenable, Jimmy Butler a planté 56 points pour permettre aux Heat de renverser 119 à 114 les Bucks. L'ailier de 33 ans a frappé fort, battant son record personnel en playoff et établissant celui d'une franchise. Ni LeBron James, ni Dwayne Wade, ni Shaquille O'Neal, tous sacrés champions avec le Heat par le passé, n'ont pu faire aussi bien dans l'histoire de la NBA. Seul Michael Jordan, 63 points, Elgin Baylor, 61 points, et Donovan Mitchell, 57 points, ont fait mieux. Miami mène 3 à 1 dans sa série face à Milwaukee. À l'ouest, les Lakers ont aussi mis les Grizzlies au bord du précipice au terme d'un match numéro 4 très intense qui a viré à l'avantage des Californiens, vainqueurs 117 à 111 après prolongation. Les LA Lakers, eux, mènent 3 à 1 à une victoire des demi-finales de conférence.
NBA toujours, doigt fracturé pour Fox des Kings, incertain pour le match numéro 5 contre les Warriors.
De'Aaron Fox, maillon essentiel de Sacramento, s'est fracturé l'extrémité de l'index gauche lors de la défaite à Golden State dimanche. Du coup, sa participation au match numéro 5 des playoffs demain mercredi est incertaine, rapporte ESPN citant des sources internes au club. Fox, s'il le peut, jouera avec une protection sur ce doigt de la main qui n'est pas celle avec laquelle il shoote, car il est droitier. Son absence serait préjudiciable aux Kings dans cette série face aux Warriors, champions en titre, à qui ils rendent la vie due. Fox, 25 ans, a encore délivré une performance de très haut niveau, 38,9 rebonds, faisant honneur à son titre de joueur le plus décisif de la saison. Pour ses premiers playoffs, il tourne à 31,5 points, 7 passes décisives et 6 rebonds de moyenne en 4 rencontres jusque-là.
Le 37e marathon des sables s'est lancé dimanche au Maroc.
Cette année, plus d'un millier de coureurs représentant 55 nationalités ont pris le départ à Errachidia, dans l'est du royaume. Au programme, un parcours de 242 km divisé en 6 étapes quotidiennes dans la fournaise du Sahara au Maroc. La 4e étape a lieu demain mercredi. C'est la plus longue avec 90 km. L'environnement désertique avec ses plaines sablonneuses, des collines pelées et rocailleuses, sans compter les tempêtes de sable et la chaleur attendue en journée entre 35 et 40 degrés en moyenne, vont tester la résistance des athlètes. Il y a bien sûr les stars comme le Marocain Rachid El Morabiti, qui à 41 ans va tenter de remporter sa 10e victoire, ou la Néerlandaise Regna Deba, qui revient cette année après son succès en 2019.
Page des sports VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. C'est dans une vidéo de 3 minutes postée sur les réseaux sociaux que Joe Biden a annoncé sa candidature à la présidentielle américaine de 2024. Son nouveau slogan de campagne dit « Ensemble, nous pouvons finir le travail ». Quelles sont les chances de Joe Biden? Nanita Lani a joint Mohamed Mboj, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York, ici aux États-Unis.
Elles sont réelles. Les démocrates certainement vont faire, en fin de compte, donc un ralliement autour de sa candidature, parce que Trump semble être un opposant formidable que les républicains vont présenter. Et donc Biden a beaucoup de chances de répéter donc la victoire qu'il avait acquise sur Trump. Et donc le Parti démocrate est assez divisé entre l'aile gauche et l'aile droite. Et donc Biden, qui se situe un tout petit peu au centre, est capable de fédérer les voix démocrates. Et à ce moment-ci, peut-être qu'il a les meilleures chances de battre Trump si Trump est le candidat du Parti républicain.
Mais son âge ne pourrait-il pas jouer en sa défaveur?
Certainement, il y a un certain ageisme aux États-Unis où l'âge est regardé comme un facteur défavorable, mais pas dans tous les cas. On a eu Ronald Reagan et en fait aussi Biden a été élu avec ce facteur de l'âge. Il a été très critiqué, très attaqué sous cet angle. Donc on ne peut pas l'attaquer plus qu'on l'est déjà attaqué sous cet angle. Donc je pense qu'il va survivre. Donc s'il y a un handicap de l'âge, et en particulier s'il est confronté à Trump, qui est un petit peu dans la même catégorie, je ne pense pas que l'âge soit un facteur décisif.
Mais dans son bilan, on voit qu'il avait promis interdire les fusils d'assaut, mais il ne l'a pas fait. Et puis aussi, lorsque la Cour suprême a mis fin au droit constitutionnel à l'avortement, il n'a pas pu faire grand-chose. Il n'a pas non plus fait de grandes législations pour protéger l'accès au vote des Afro-Américains ou répondre aux violences policières. Est-ce que tout ce bilan-là ne va pas jouer en sa défaveur?
D'une manière générale, réglementer l'accès aux guns, aux fusils, je ne pense pas que ce soit une sorte de négativité pour un candidat démocrate, parce que fondamentalement, il ne peut pas grand-chose là-dessus. Deuxièmement, la Cour suprême, tout président n'a pas de pouvoir pour contrecarrer. Il a fortement commenté, et je pense qu'il est resté dans les limites de la courtoisie, mais il a fortement montré son déplaisir, et je pense que les gens s'en souviendront. Et troisièmement, maintenant pour ce qui est de la protection des droits de vote, là c'est un processus qui continue, mais il faut reconnaître que l'organisation du vote étant locale, Biden ne peut pas faire de miracle. Et actuellement d'ailleurs, je ne vois pas de leader noir démocrate qui lui reproche de ne pas avoir fait grand-chose de ce point de vue-là. Donc c'est plutôt la presse qui bat les buissons pour débusquer des sujets pour parler, mais je n'ai pas encore entendu un responsable noir démocrate dénoncer l'apathie ou la non-action de Biden face à l'érosion des droits de vote des minorités. Je ne l'ai pas encore entendu, je ne l'ai pas encore vu.
Professeur Mohamed Mboj de Manhattanville College à New York.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Au Burkina Faso, l'attaque du village de Karma, situé à une quinzaine de kilomètres de Ouaigouya dans le nord du pays, a fait plus d'une centaine de morts, selon un témoin. C'est aussi ce qui ressort d'un communiqué. Des ressortissants et rescapés de Karma y qualifient cette attaque du jeudi 20 avril de tuerie lâche et barbare et accusent des hommes vêtus de tenues de l'armée. Yacouba Ouédraogo a joint un témoin et rescapé du massacre. Pour des raisons de sécurité, nous ne révélerons pas son identité.
Au cours de 6 heures, c'était un combat. Les habitants ont entendu un coup de bruit qui venait du côté est du village. Quelques instants après, on a aperçu donc des véhicules, des motos qui avançaient. Les gens qui sont arrivés dans le village, ils ont quadrillé le village. Et ils ont commencé par donc faire sortir donc la population. Et on a mis donc des gens en route. Les femmes à part, les hommes aussi à part, ils avaient commencé un certain temps à récupérer les cartes d'identité nationale. Et ça, ça n'a pas allé loin. tout en disant que vous êtes là, alors qu'il y a trois villages voisins qui guérissent. Pourquoi vous êtes toujours là? Depuis quand vous êtes ici? Votre village est un passoire de terroristes. Vous êtes des complices de terroristes. Nous allons nous traiter comme tels. Là, ils ont commencé donc à tirer donc sur les gens. Les escalpeurs ont tenté donc de tirer, de rentrer dans les concessions. Ils ont poursuivi. Ceux qui n'ont pas pu se cacher, on les a achevés.
Combien de personnes environ ont été tuées?
Une centaine.
Quand vous dites qu'ils ont commencé à tirer sur les gens, est-ce que vous avez identifié ceux qui sont venus dans votre village? Qui sont ceux qui sont venus tirer?
Dans les premiers moments, ils sont arrivés dans les villages. Les gens étaient contents parce qu'ils disaient que c'était l'armée qui était là pour les sécuriser. Ils se disaient qu'ils ont eu la chance parce qu'ils seront plus dégagés parce que l'armée est là, on va les sécuriser. Il n'est plus question de dégagement. Et les villages sont sauvés.
Est-ce que vous avez identifié clairement l'armée burkinabé?
Oui, mais j'étais venu en très, très grand nombre. Gouvernement armé, nous estimons que notre présence ou d'autres donc forces ne peuvent pas circuler dans la zone-là, un tel dispositif, sans que l'armée quand même intervienne. Pour nous, puisque nous avons appris qu'à Waïvila, il y a eu donc un mouvement depuis Ouagadougou, l'armée qui est allée pour de Waïvila à 4 heures comme ça du matin. Ils ont fait peut-être 30 minutes comme ça, et ils ont continué donc vers notre zone. Et après donc, à vouloir faire donc, à forcer donc dans notre village, ils ont continué encore. C'est toute la zone-là. Il y a des villages encore qui ont été visités.
Quel village par exemple?
Fagam, Dingiri, Kierga, Sabuna, Néné et Tampas. Quand on compte que les villages, de Waïvia qui sont à côté de nos villages, tous ces villages ont été dégâtés. C'est notre village qui est le premier village de contact. Après notre village, maintenant, il y a plusieurs autres villages qui sont toujours là.
Où se trouvent présentement les habitants du village, les rescapés, comme vous?
Il y en a qui sont peut-être dans quelques villages qui sont à côté de Waïvia. La grande majorité est à Waïvia.
Le procureur près du tribunal de grande instance de Waïvia dit avoir ouvert une enquête.
Oui.
Est-ce que vous avez foi que cela va aboutir à l'éclatement de la vérité?
Pour être honnête, non.
Pourquoi?
Parce qu'à partir donc du lundi, on allait voulu donc aller même à Karma pour vérifier, commencer peut-être à enterrer même les morts. Et il y avait donc un dispositif à quelques 9 ou 10 kilomètres comme ça, un village, un dispositif militaire, qui empêchait donc les gens, tous ceux qui pouvaient être la zone, ne pouvaient pas passer. Par contre, ceux qui viennent donc du sens inverse, ils continuent jusqu'à Waïvia. Nous pensons déjà que c'était donc une manière pour effacer les preuves. Et là, c'est formellement identifié que c'est l'armée. S'ils ne sont pas autant, pourquoi? On est donc d'organiser rapidement pour que les gens puissent aller sur les lieux pour voir exactement ce qui s'est passé. Pourquoi essayer d'empêcher les gens d'y aller? Il y en a qui vont prendre des photos. Voilà ceux qui viennent du village, du village de Karma. Leurs portables tactiques ont été systématiquement retirés, puis fouillés. Tous ceux qui viennent vers Waïvia en ce moment peuvent passer et venir à Waïvia. Maintenant, ceux qui quittent les autres quittent Waïvia pour entrer vers Karma, c'est pas possible.
C'était un témoin et rescapé du massacre de Karma dans le nord du Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, certains abonnés des deux compagnies de téléphone du pays, MTN et Orange, ont adhéré à une campagne de boycott des services offerts par ces opérateurs. Les abonnés ont ainsi mis leur téléphone en mode avion pour protester contre les coûts des communications et des forfaits Internet. L'opération lancée via les réseaux sociaux a reçu l'adhésion de la société civile et certaines personnalités politiques de Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jelenta.
Le lieu dit avenue Kennedy à Yaoundé. C'est ici que se trouve le siège d'Orange Cameroun, l'un des quatre opérateurs de téléphonie mobile du pays. Stéphanie travaille à cet endroit comme agent commercial dans une boutique de vente de téléphones et d'accessoires. Elle a adhéré à l'opération dénommée mode avion.
Le coût des appels téléphoniques au Cameroun est parmi les coûts élevés en Afrique centrale. 2 heures, c'est petit. Si on pouvait se mettre dans un conditionnement même d'une journée où nous tous on désactive nos téléphones, je crois que là les choses pourraient changer.
Les Camerounais ont saisi l'opération baptisée mode avion pour dénoncer les désagréments du réseau de téléphonie mobile. Simon Kadjou, commerçant à Yaoundé.
Avant, il y avait ce qu'on appelle multiplication des crédits. Quand tu donnes 1000 francs, on multiplie ton crédit pour mieux appeler tout réseau. Mais maintenant, ce qu'on dit qu'à tel âge maintenant, tu ne peux plus avoir ça. Moi, je ne comprends pas. On favorise plus les jeunes qui n'ont aucune charge. On leur donne le forfait moins cher et pour les responsables qui ont plus de charges, on leur donne plus cher.
Rifo Agbor est opérateur économique. Il ne cache pas non plus son insatisfaction vis-à-vis des opérateurs de téléphonie mobile.
Si les gens se lèvent comme ça, comprenez que c'est du sérieux. Vous ne pouvez pas imaginer un pays très pauvre, du tiers-monde comme le Cameroun, hein, paye des tarifs très chers, pendant qu'en France, la France qui est un pays développé, paye au moins 15 fois moins cher que le Cameroun. Les réseaux de communication, ce n'est pas normal.
Le Cameroun enregistre plus de 21 millions d'abonnés cellulaires, selon GSMA Intelligence, l'organisme qui regroupe les opérateurs de télécommunications dans le monde. Mais le rapport qualité-prix fait encore défaut, d'après cet abonné.
Est-ce que c'est vraiment de la 4G qu'on nous donne au Cameroun? Est-ce que nous sommes à 3G, 2G? Je crois qu'on doit vraiment s'interroger à ce niveau-là.
Les deux opérateurs concernés n'ont pas réagi à cette opération de boycott de leurs produits, encore moins l'Agence de régulation des télécommunications. Mais à l'occasion de la Journée mondiale des consommateurs le 15 mars dernier, un responsable d'Orange Cameroun a tenté de répondre aux préoccupations des abonnés sur la cherté des appels au Cameroun. Stéphane Moukouri, chargé des relations publiques et presse à Orange Cameroun.
Un appel d'un réseau vers un autre est forcément surtaxé parce qu'il y a des frais de terminaison.
Il y a des désagréments, c'est vrai, mais c'est aussi parce que la technologie évolue. Nous sommes amenés régulièrement à faire des travaux pour augmenter la capacité, la qualité et vous offrir une meilleure expérience de nos services.
Une minute d'appel au Cameroun coûte en moyenne 91 francs CFA. Il faut déposer 1,53 $, soit plus de 900 francs CFA par gigaoctet. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
C'est aujourd'hui la journée mondiale contre le paludisme. Au Gabon, c'est la première cause de consultation et d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel avec un taux de morbidité estimé à plus de 20%. Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Jonathan Tchassou dirige une association de bénévoles. Il tente de sensibiliser les riverains sur les dangers d'un environnement insalubre. Une insalubrité accentuée par l'incivisme des populations qui jettent les déchets ménagers à même le sol. Nous sommes dans un des quartiers à haut risque de transmission du paludisme à Libreville, un quartier nommé derrière la prison.
Effectivement, nous avons remarqué que beaucoup de quartiers sont insalubres et nous sommes donc venus sensibiliser les populations, accompagnés de dons.
Un don de brouette, pelle, bottes et de gants pour inciter les populations à prendre le relais des actions citoyennes. Olivier Nguema est habitant du quartier derrière la prison.
C'est les deux côtés où je vais pas là. Les gens vraiment le problème tout le monde dans ce moment-là, c'est la muscu.
Professeur Simon Jonas Atekbo coordonne un service constamment sous pression au centre hospitalier universitaire Mère-Enfant de Libreville. Chaque jour, il enchaîne des consultations pédiatriques.
Attends, ma copine, attends. Voilà.
Plus de peur que de mal pour ce bébé qui a de fortes fièvres. Le test de dépistage rapide montre qu'il est hors de danger. Mais pour le responsable du pôle enfant, une consultation chez le médecin est toujours indispensable. Professeur Simon Jonas Atekno.
Le paludisme est une maladie potentiellement grave pour l'enfant. Parce qu'elle peut donner des conséquences neurologiques avec des convulsions. Elle peut agir sur la déglobulisation avec une anémie sévère qui peut faire passer la vie de l'enfant si la transfusion n'est pas urgente. Mais elle peut aller aussi dans les complications rénales avec une insuffisance rénale.
Le Gabon est engagé dans une course contre la montre pour l'atteinte de l'objectif zéro palu à l'horizon 2030 fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Hugues Ronel Essangangomo est chargé de la communication du programme national de lutte contre le paludisme.
Un business plan est en train d'être élaboré pour pouvoir apporter le plaidoyer au niveau national mais également international pour que les partenaires puissent nous accompagner dans cette lutte-là.
Le Gabon sort de 2 ans de Covid qui ont éclipsé les actions de son plan national antipaludique. Il espère beaucoup de son plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières sur le plan local et international. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, ce sera tout pour cette session d'information. Merci et bonne écoute radiophonique.